Bonjour, merci d'être fidèle au grand face-à-face de France Inter. Dans un instant, comme chaque semaine, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein, suivi du débat du samedi. Faut-il en finir avec l'obsession de la croissance? L'idée n'est pas neuve, mais nous n'en avons sans doute pas tiré toutes les conclusions. Se focaliser sur le PIB, le produit intérieur brut, rend borgne au bien-être économique, aveugle au bien-être humain, sourd à la souffrance sociale et muet sur l'état de notre planète, fermez les guillemets. C'est le constat que faisait notre invité cette semaine dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Critiquer la croissance ne suffit pas, il faut aller jusqu'au bout et changer de politique au pluriel, que ce soit à l'échelle européenne, nationale ou encore locale. C'est donc la thèse d'Éloi Laurent. Il est économiste à l'OFCE, professeur à Sciences Po et à l'université de Stanford en Californie. Son livre « Sortir de la croissance, mode d'emploi » vient de paraître. Rendez-vous avec Éloi Laurent dans une vingtaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face, Ali Badou.
La directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, sont fidèles au rendez-vous. Bonjour les amis.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver avant d'entrer dans ce qui a animé la semaine politique. Un mot, Natacha, vous vouliez qu'on s'arrête un moment sur ce qui concerne aussi le débat public et ce qui aurait dû se passer à l'université de Bordeaux-Montaigne cette semaine, à savoir une conférence de la philosophe Sylvia Nagasinski intitulée « L'être humain à l'ère de sa reproductibilité technique », et donc Sylvia Nagasinski devait s'exprimer notamment sur la GPA, sur la PMA, conférence qui n'a donc pas eu lieu.
Non, qui n'a pas eu lieu parce que des groupuscules d'étudiants ont adressé des menaces à l'université, expliquant qu'ils empêcheraient par tous les moyens cette conférence. Pourquoi ? Parce que selon eux, Sylvia Nagasinski serait une homophobe notoire.
Parce qu'elle est contre la GPA et la PMA.
Oui, c'est-à-dire que Sylvia Nagasinski, qui a soutenu le PACS, qui a soutenu le mariage pour tous, qui mène un travail, qui est un travail, quel que soit, enfin, on peut ne pas être d'accord avec sa vision de la PMA et de la GPA, mais elle est dans la pensée nuancée, complexe, elle ce n'est pas Éric Zemmour, elle n'est pas dans la caricature, dans la recherche de la polémique. Eh bien, Sylvia Nagasinski, donc, ne peut plus parler. Elle-même, d'ailleurs, m'avait dit il y a quelque temps qu'elle savait très bien qu'elle ne pourrait plus enseigner à l'EHESS aujourd'hui.
Ah oui ?
Parce que, là aussi, il y a des pressions, une idéologie dominante qui empêche certains professeurs de dire exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. Je crois que la situation commence à devenir grave. Et je pense que les universités sont le lieu du savoir, du débat argumenté, de la disputatio, comme on disait autrefois, que ça devienne un lieu où des groupuscules expliquent qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler au nom de leur idéologie, me semble extrêmement dangereux.
Gilles, c'est grave ou est-ce que c'est un problème de maintien de l'ordre et de service d'ordre qui aurait pu être dépassé dans le cas d'une conférence qui aurait eu lieu à l'Université de Bordeaux ?
Ça va, je crois, au-delà. C'est une dérive qui est absolument inacceptable, qui est le signe d'une difficulté de plus en plus croissante dans notre société et particulièrement à l'université d'accepter des opinions qui ne sont pas les vôtres et donc ce faisant d'une liberté d'expression qui peut se trouver de plus en plus amputée.
Le paradoxe, c'est qu'on a l'impression au contraire que la liberté d'expression donne lieu à de grandes dérives, qu'on même peut, on peut dire aujourd'hui tout et n'importe quoi dans l'espace public, dans les médias. C'est
alors,
pas votre sentiment, Natacha ?
Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que le problème là n'est pas seulement une question de liberté d'expression. C'est-à-dire que employer ce terme liberté d'expression, c'est dire il y a des opinions et toutes les opinions doivent s'exprimer. Or, l'université est le lieu, je le disais, du savoir, c'est-à-dire de la recherche d'une forme de vérité appuyée sur la rationalité. Chacun peut en effet aboutir à des conclusions différentes dans les sciences sociales, parce que justement, ce ne sont pas des sciences dures, il n'y a pas de vérité en sciences sociales ou en philosophie comme il y a des vérités mathématiques, mais pour autant, tant que c'est appuyé sur une réflexion rationnelle, cela doit pouvoir se dire et se proférer. Donc on n'est pas juste dans le combat d'opinion. Or, nous sommes en train de réduire ça à un combat d'opinion avec des opinions qui seraient jugées déviantes, ce qui n'est pas du tout la philosophie des universités depuis le Moyen-Âge.
Et d'ailleurs, Sylviane Gazinski disait qu'elle ne tenait pas à se victimiser, mais qu'elle n'avait jamais vu ça, ce climat d'intimidation qui serait selon elle récent. Et elle appelle à résister, je la cite, à des groupes qui excluent toute critique, y compris celle inspirée par le respect des personnes. Elle est en tout cas la bienvenue dans le grand face-à-face, Sylviane Gazinski, pour qu'on parle justement de ces questions de GPA, de PMA et de la reproductibilité de l'être humain à l'ère technique.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Quand on regarde ce qui est un mandat d'un maire en France ou d'un président de région, c'est 6 ans. Et pourquoi, pour un président, ce serait seulement 5 ans? En plus, on sait bien que pendant ces 5 ans, il y a une année qui sert un peu d'expérience. Et on voit à chaque fois, on parle d'un temps 2 du quinquennat. Et puis, on voit aussi que la dernière année est très marquée par la préparation de l'élection présidentielle.
L'ancien président de la République, François Hollande, qui plaide pour une profonde réforme des institutions dans un livre qui vient de paraître chez Fayard. Le titre, Répondre à la crise démocratique. L'ancien président souhaite un véritable régime présidentiel et voici quelques-unes de ses propositions. Élire le président de la République pour 6 ans, étendre donc le quinquennat à un sextennat, Natacha, comme on dit. C'est compliqué.
A priori, ce serait sextennat, oui, je pense. Mais je me garderais bien d'être péremptoire là-dessus.
Un mandat de 6 ans, en tout cas. Il propose également de supprimer le poste de Premier ministre, de supprimer aussi le pouvoir de dissolution ou encore le 49-3. Comment avez-vous reçu ces propositions, Gilles?
Alors, si on s'intéresse non pas au messager, mais au message... Le messager compte aussi, mais on s'intéresse trop souvent au messager et trop peu au message. Donc, si on se concentre sur le message, je pense que d'abord, le constat est juste. C'est-à-dire qu'il y a une crise et un essoufflement de nos institutions qui souffrent d'une crise de représentativité. L'Assemblée nationale et le président de la République en France s'appuient sur un socle qui est un socle très étroit et, on le dit trop peu, un problème d'efficacité de nos institutions, avec un Parlement qui est devenu, pour une large partie, inutile, et surtout avec un exécutif qui, du fait de sa diarchie, dysfonctionne de plus en plus. Donc, le constat me paraît juste, l'orientation me paraît intéressante, c'est-à-dire si on dit il y a un essoufflement, si on considère que on ne reviendra pas sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct, la seule voie de réforme profonde de nos institutions, c'est le régime présidentiel.
Expliquez-nous d'un mot ce que ça veut dire, parce que régime présidentiel, ça ne veut pas dire qu'on donnerait encore plus de pouvoir au président alors qu'on est déjà dans la 5e République, dans le cadre de ce qu'on appelle une monarchie présidentielle.
Vous avez raison, ça veut dire même exactement le contraire. Régime présidentiel, ça veut dire que la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est plus nette, plus stricte qu'elle ne l'est dans un régime parlementaire. C'est ce que vous avez évoqué. Ça veut dire que l'exécutif n'a plus le droit de dissoudre l'Assemblée nationale et qu'en contrepartie, l'exécutif n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Donc c'est un régime de séparation stricte des pouvoirs comme on l'a aux États-Unis. Une fois qu'on a dit, le constat est juste, l'orientation est intéressante, il y a des débats soulevé par François Hollande, qui mérite d'être approfondi. Par exemple, la question du bon rythme d'élection. François Hollande propose 6 ans pour le président de la République, 4 ans pour l'Assemblée nationale. Ça mérite une discussion. On pourrait tout à fait concevoir un régime présidentiel dans lequel on reste avec 5 ans pour les deux. On pourrait concevoir 6 ans pour le président de la République et 3 ans pour l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des vraies élections de mi-mandat comme on en a aux États-Unis. Donc ça, je crois que c'est un vrai débat. Et puis le débat pour moi le plus important et pour le coup qui est peu soulevé, c'est que un régime présidentiel est moins souple. On n'a pas des soupapes pour résoudre des crises avec la responsabilité du gouvernement ou la dissolution.
Et donc on n'a plus le fusible qu'est le Premier ministre si on le supprime.
Et donc comment on fait pour surmonter des crises dans un pays comme la France qui n'a pas la culture du compromis comme peuvent l'avoir les États-Unis?
Natacha.
Oui, premier constat, en effet, la constitution de la Ve République a été tordue, distordue dans tous les sens, et on aboutit à un régime qui n'a plus de véritable contre-pouvoir. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'un régime présidentiel, c'est un régime où il y a de forts contre-pouvoirs. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, du coup, se retrouve totalement inféodée à l'exécutif, au président de la République, et elle est une simple chambre d'enregistrement. C'est cela qui pose problème. Alors la question de savoir s'il faut aller vers un régime présidentiel. Oui, on se souvient quand on est passé au quinquennat du grand argument, l'argument principal pour que tout le monde accepte le quinquennat, et d'ailleurs c'était rare hein, quand on disait qu'on trouvait que c'était une absurdité. L'argument c'était c'est moderne. C'est « oh là là, 7 ans c'est trop long ». C'était quand même le degré zéro du débat politique. Hein. Et donc là, on se retrouve confronté à ce problème-là. Alors, ce qui me gêne un peu dans la proposition de François Hollande, c'est que il me semble que soit on va vers un régime présidentiel et sur le modèle américain, on prévoit en effet éventuellement 3 ans pour avoir des élections de mi-mandat, mais avec tout de même, à chaque fois qu'un président arrive, une chambre, la possibilité d'une chambre qui soit accordée. Alors que si simplement on fait 6 ans, 4 ans en espérant aller vers un régime présidentiel et non pas vers ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire en fait on a deux choix, 6 ans, 4 ans, on peut retourner vers l'esprit de la Ve République ou aller vers un régime présidentiel. Si on va vers un régime présidentiel de cette façon-là, il me semble que là pour le coup ça crée un déséquilibre, puisque quand le président arrive, si l'Assemblée ne correspond absolument pas à ce qu'il veut faire, il n'a pas la possibilité de dissoudre, il n'a pas la possibilité de faire passer donc les lois qui sont les siennes, et en effet comme le disait
se retrouver impuissant au moment même où il arrive à l'Élysée.
Et comme le dit Gilles, nous n'avons pas la culture du compromis qui permet de travailler avec une assemblée petit à petit. Donc il faut réfléchir à ça, mais en tout cas y réfléchir et enfin considérer que la question des institutions est majeure, c'est déjà un premier pas.
Oui, parce que c'est pas une question en général qui mobilise les foules, Gilles, mais le pouvoir de dissolution, le supprimer le 49-3, c'est assez étonnant parce que ce sont deux des pouvoirs les plus forts dont dispose le président de la République pour faire avancer des mesures, même s'il a des frondeurs, par exemple, et je pense que François Hollande s'en souvient.
Oui, le paradoxe, c'est que ce sont deux dispositions très importantes aux mains du pouvoir exécutif sous la Ve République, mais qui ne sont pas utilisées.
Le 49-3.
Le 49-3 l'a été.
Il l'a utilisé, notamment.
Il l'a été sur un texte important, il l'a été deux fois. Enfin, sur un texte, sur l'ensemble d'un quinquennat. Il ne l'a pas été depuis le début, il faut dire qu'il y a une majorité absolue et qui est une majorité, par ailleurs, qui est disciplinée depuis 2017. Il a beaucoup servi, en revanche, et c'est là où on revient à cette histoire de culture du compromis, il a beaucoup servi à un moment qui est entre 1988 et 1993, c'est-à-dire à un moment où il n'y avait pas de majorité absolue pour gouverner, où il fallait trouver des compromis. Lorsqu'il n'y avait pas de compromis, ben, le 49-3 permettait de gouverner. Depuis, il faut quand même souligner que la révision a été révisée et qu'il n'est plus possible d'utiliser le 49-3 à tour de bras comme cela avait été le cas, puisqu'il ne peut être utilisé qu'une fois par session. Quant à la dissolution, elle a été des dissolutions de crise, elle n'a été utilisée en réalité que par au début des années 60, puis par Jacques Chirac avec
un
succès relatif.
Évidemment. Oui. Malgré tout, un mot sur le messager. Est-ce que François Hollande est le mieux placé pour formuler ses propositions ? Gilles ne voulait pas commencer par là, mais je vous pose la question.
Gilles avait raison de ne pas commencer par là, mais une fois qu'on y est, oui, il y a quelque chose d'assez surprenant et presque risible à voir François Hollande se positionner sur ces questions, alors même qu'il a appartenu à un parti qui a contribuer très largement à détricoter la Ve République et à la déséquilibrer, que ce soit par les choix et par l'exercice présidentiel. Mais surtout, il me semble que ce qu'il faut avoir en tête, c'est le fait aussi que c'est la question est de savoir comment on réussit aujourd'hui à remettre en ordre une démocratie représentative qui permette de réellement représenter et donc traduire la volonté populaire. C'est ça la question à laquelle nous sommes confrontés. La question institutionnelle est majeure, elle n'est pas la seule. Et si on pose la question d'un régime présidentiel, sans se demander ensuite comment, au sein de l'Assemblée nationale, on fait en sorte que les différentes sensibilités soient représentées pour permettre justement que les citoyens aient l'impression de se faire entendre, on passera à côté. Donc c'est l'ensemble des questions qu'il faut poser, mais tant qu'on considérera qu'il y a des sujets qui sont tabous, qu'il y a des sujets qui ne doivent pas être abordés parce que l'économie est une science dure qui doit dicter sa volonté à la politique, on peut mettre toutes les institutions du monde, ça ne changera rien.
Un mot encore, Gilles.
Oui, juste d'une phrase sur François Hollande. Il est à la fois le plus mal placé, parce qu'il était président de la République et donc il avait notamment à l'automne 2016, après un rapport de Claude Barthelone et de Michel Vinocq qui proposait le régime présidentiel, il avait fermé la porte. Mais il est aussi le mieux placé parce que c'est le seul parmi les nombreuses personnalités qui se sont exprimées en faveur du régime présidentiel, il est le seul à avoir été président de la République et donc à avoir éprouvé de l'intérieur le fonctionnement et les dysfonctionnements de la Ve République.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel. C'est une contestation sociale, parce que nous n'avons pas été entendus depuis des décennies, et plus encore depuis la dictature, et que nous sommes sous la constitution élaborée par la dictature.
Il est vrai que les problèmes ne datent pas de ces derniers jours. Ces situations d'inégalité a conduit à un mouvement sincère et véritable de millions de Chiliens. Je reconnais notre faute et demande pardon pour le manque de vision à tous nos compatriotes.
Ça se passe au Chili, étudiants, syndicats, enseignants mobilisés depuis maintenant une semaine. Ils protestent contre les inégalités économiques et sociales, des manifestations qui ont abouti à des heurts, qui ont été durement réprimées, des morts, des blessés, des milliers d'arrestations. L'armée est intervenue dans les rues de Santiago pour la première fois depuis l'ère Pinochet. On vient d'entendre quelques mots d'un témoignage d'une manifestante dans la capitale chilienne. C'était mardi dernier. Et mardi, la réponse du président Sebastián Piñera qui annonçait un paquet de mesures destinées à apaiser la fronde, instauration d'un salaire minimum garanti, hausse des retraites, stabilisation des coûts de l'électricité. Voici quelques-unes des annonces qu'il a faites. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce mouvement qui se déroule au Chili, Natacha ?
Plusieurs choses. D'abord, le fait qu'en effet, le Chili n'est pas tout à fait sorti de la dictature de Pinochet et la façon dont se passent ces manifestations le démontre. La constitution, l'ensemble des institutions chiliennes ont gardé la trace de cela. Et surtout, Piñera est en fait le meilleur élève de ce qu'était Pinochet, dans la mesure où il est à la fois, et il le prouve aujourd'hui, dans une tentation dictatoriale et d'un écrasement, parfois avec des méthodes douteuses d'un mouvement social, mais surtout, c'est un parfait Chicago Boy, c'est-à-dire c'est un
Chicago Boy.
Oui, un héritier de l'école de Chicago, c'est-à-dire de toute cette libéralisation qui a sévi depuis 40 ans et qui s'est imposée à des pays comme le Chili et qui finalement s'accommode très très bien des régimes dictatoriaux. Et là, en l'occurrence, la révolte au Chili est une révolte des classes moyennes. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est tout simplement le prix du ticket de métro.
Oui.
C'est-à-dire que, et c'est vrai d'ailleurs dans beaucoup de pays, aujourd'hui la question des transports est une question majeure parce que la liberté de se déplacer, c'est une liberté fondamentale et c'est la possibilité pour des gens de pouvoir travailler et vivre de leur travail. C'est tout cela qui se joue. On le voit dans différents pays sous différentes formes, mais c'est le grand paradoxe, c'est de voir la modernité s'appuyer sur l'accélération, la vitesse, la réduction des distances et en même temps, comme la libéralisation des flux de capitaux et de marchandises a appauvri les États, il faut à un moment faire payer quelqu'un et on fait payer les classes moyennes. Et les petites classes moyennes à qui on dit qu'il faut être mobile, on les assigne à résidence en leur faisant payer le déplacement un peu plus cher. C'est tout ce jeu-là qui est en train de se mettre en œuvre et qui est le résultat d'une politique néolibérale qui est absolument dramatique. Et en l'occurrence, là, vous avez sur la question des retraites au Chili, par exemple, ce sont des retraites par capitalisation, des retraites extrêmement faibles, alors que elle rapporte énormément à tous les fonds qui les gèrent. Donc on retrouve tous les ingrédients d'une explosion sociale majeure.
Gilles Finkelstein. Ouais.
Ce qui se passe au Chili, là, est assez inédit. C'est inédit par la forme de la contestation. Il y a eu des attaques contre 164 stations de métro, c'est-à-dire toutes les stations de métro de Santiago ont été attaquées, et inédit par la forme de la réaction, vous l'avez évoqué, c'est la première fois depuis le départ de Pinochet que c'est l'armée qui est chargée du maintien de l'ordre, et pour le moins, elle l'a fait de manière extrêmement, extrêmement violente, si on regarde le nombre de morts et le nombre de blessés. Il y a des parallèles qui peuvent être faits, toutes choses égales par ailleurs, avec le mouvement des Gilets jaunes ici. L'origine, le prix des transports, c'était le carburant. Chez nous, c'est le
sous-entendait Natacha.
Alors même que c'était une augmentation qui était extrêmement minime, hein, c'est 0,4 euros d'augmentation du prix du ticket de métro. Mais ce qui était derrière, c'était non pas les 30 pesos, mais les 30 dernières années, pour reprendre une formule qui fleurit sur les murs de Santiago. L'organisation du mouvement par les réseaux sociaux, comme dans beaucoup d'autres endroits, la violence est très vite la
Une manifestation avec une atmosphère aussi souvent festive.
Absolument. Et très vite, le transfert des questions sociales aux questions politiques, exactement comme on l'a vu. Vous l'avez dit, le président de la République a fait des concessions extrêmement importantes et pour le coup relativement rapides. Mais maintenant, la question n'est plus seulement une question sociale, c'est aussi une question politique dans un pays dans lequel le désengagement vis-à-vis de la politique est fort, le dégoût d'une classe politique qui est la plus payée de toute l'Amérique latine et pour partie peut-être même du monde est extrêmement fort. Et donc il y a ces parallèles. J'ajoute un tout dernier mot. On est dans une situation, et ça va, on pourra en parler aussi avec Éloi Laurent, où on voit la faiblesse ou la limite des indicateurs, où on peut dire que le Chili va bien, mais que les Chiliens vont mal. Le Chili va bien quand on regarde
les statistiques.
C'est un pays relativement riche par rapport au continent sud-américain, mais les Chiliens vont mal au sens où, pour les raisons qu'a évoquées Natacha Polony, les inégalités sont extrêmement fortes. C'est un des pays de l'OCDE dans lequel les inégalités sont les plus fortes et qui est sur un système qui est intenable à la fois pour des raisons économiques. La question de l'éducation est une question absolument majeure, privatisée avec un endettement des ménages considérables pour pouvoir payer les études et qui enfin est insoutenable d'un point de vue écologique puisque l'économie repose très largement sur le cuivre qui est extrêmement polluant.
Encore un mot, Natacha?
Oui, encore un mot. En effet, le Chili est la caricature de ce mouvement néolibéral qui s'est construit sur 40 ans et dont nous voyons aujourd'hui les limites.
Ce que Naomi Plein appelait la stratégie du choc.
Exactement. Et on s'aperçoit que tout cela crée de la tension, du malheur, des explosions un peu partout, sauf qu'on ne voit pas, absolument pas, le système se réformer. Et c'est cela qui est profondément inquiétant. Que l'explosion vienne en France, que l'explosion vienne au Chili de différentes manières, visiblement, nous sommes toujours sur la même pente, alors même que vous avez en effet une richesse qui ne crée absolument plus de bien-être et de bonheur parmi les peuples.
Et on aura l'occasion d'en parler donc au cours du débat.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Rapidement, Gilles, dans l'actualité, vous avez voulu vous arrêter sur un phénomène très contemporain, ce qu'on appelle le co-working, comme on dit en bon français, traduction, travailler ensemble, mais travailler ensemble dans des espaces délocalisés. Il faut oublier les bureaux, les open space, et penser à des espaces où l'on vient s'installer pour travailler quelques heures, parfois la journée, qui est souvent à l'extérieur même de l'entreprise. Ça se développe. Paradoxe, l'un des leaders du secteur, l'américain WeWork, vient d'être sauvé de la faillite. Pourquoi avez-vous voulu vous arrêter là-dessus?
Parce que la question de l'organisation du travail est de plus en plus une question majeure et qu'on a parallèlement ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire ce coworking qui concerne plutôt des toutes petites entreprises, des gens qui viennent là trouver un espace commun, et qu'on a parallèlement, il y avait un rassemblement de directeurs des ressources humaines, un développement de ce qu'on appelle le flex office.
Le flex office.
Ça veut dire quoi?
De flexibilité et bureau.
Ça veut dire qu'il y a eu une première étape dans laquelle les salariés n'avaient pas nécessairement leur bureau, au sens qu'ils n'avaient pas une pièce qui leur était attribuée, c'est ce qu'on appelle les open space. Et puis il y a un deuxième mouvement, plus récent, dans lequel il n'y a pas de bureau, au sens où vous n'avez même plus une place attribuée. Il y a des grands espaces et le premier arrivé s'installe là où il veut. Les causes de ce développement, c'est d'abord pour trouver une meilleure compétitivité, hein, puisque on a fait le constat, et je comprends que les entreprises réfléchissent à ça, que 50 à 60% des bureaux ne sont pas occupés tout le temps. Et donc, on essaye de rentabiliser l'espace. Mais il y avait aussi derrière l'idée d'une meilleure organisation, c'est-à-dire qu'on veut décloisonner au sens physique pour décloisonner réellement, déhiérarchiser, tout le monde est en flex-office. Mais, et c'est là où on voit les effets, les limites, le travail, c'est un lieu de socialisation. Et le paradoxe de le développement de ces bureaux, c'est que ça isole. Ça isole parce que on est coupé de son équipe de travail et ça isole parce que le fait qu'on soit dans un grand espace fait que, en réalité, tout le monde se replie avec ses écouteurs et que, donc, les effets pour le travail lui-même, le sentiment qu'il n'y a plus de reconnaissance, non seulement il n'y a plus de reconnaissance par le travail, mais il n'y a même plus de reconnaissance par un espace. Et donc, je crois que c'est encore des phénomènes qui sont, je ne dis pas marginaux, mais qui sont minoritaires, mais qui font réfléchir sur la manière dont on conçoit le travail.
Natacha ?
Ce ne sont pas des phénomènes marginaux, parce qu'en fait, ce sont des phénomènes qui font écho à d'autres. C'est-à-dire que c'est l'équivalent pour l'employé de bureau de ce qu'est une forme d'ubérisation pour le livreur, le manutentionnaire, et il y a donc petit à petit dans tout l'ensemble du monde du travail une transformation qui relève du diagnostic de Zygmunt Bauman sur la société fluide. C'est-à-dire que c'est le déracinement absolu des individus qui crée de la fragilité et qui, en effet, c'est le paradoxe, est en plus contre-productif puisqu'on s'aperçoit trop tard souvent, des défauts de ce genre de système. Mais ça va avec la libre circulation, des flux de capitaux, de marchandises, tout coule, tout glisse, et les êtres humains sont considérés comme des variables d'ajustement.
Et la promesse de bonheur, Gilles, celle des start-up, des entreprises de la technologie, où il n'y a plus justement de bureaux, mais des espaces où il y a des canapés, des fauteuils, où on peut s'installer à peu près où on veut, c'est un mythe auquel il faut arrêter de croire ?
Ce n'est pas totalement un mythe. Ce sentiment de fragilité qu'évoque Natacha Polony, Daniel Linhart, la sociologue, a parlé d'une précarisation spatiale où chaque jour tout est remis en jeu. Et je crois que c'est ça qui est très intéressant. Après, il faut quand même dire aussi que depuis les premiers flex office, il y a eu une réflexion sur l'organisation de ces bureaux où il ne s'agit pas toujours et seulement de faire des économies, mais de réfléchir à l'utilisation de l'espace et l'espace que l'on gagne avec le flex-office, de le réaffecter pour avoir des espaces communs qui soient de meilleure qualité et qu'il y ait des espaces qui soient plus différenciés, c'est-à-dire qu'il y ait des endroits qui soient des endroits silencieux, des salles de réunion à 2, à 4, à 10. Et donc, il peut y avoir des bons ou en tout cas de moins mauvais flex-office.
Ou des lieux comme ce studio avec une table ronde comme celle des chevaliers de la table ronde. Merci à tous les deux. À suivre le débat.
Le grand face-à-face sur France Inter.